Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Jacques-Yves Molima, Aouta.
Peine de mort pour assassinat, désertion, détournement d'armes et munitions de guerre contre Christian Ngoy Kenga Kenga, l'ancien commandant du bataillon Simba de la police nationale congolaise. C'est le verdict rendu hier dans le double assassinat de Floribert Tchebeya et Fidel Bazana. D'autres détails dans cette édition du journal. Et puis, Dr Denis Mukwege plaide pour une réforme profonde du secteur de la sécurité en RDC, mais aussi pour un assainissement sérieux des forces de sécurité et de défense congolaises. D'après le prix Nobel 2018 de la paix, cela est indispensable à tout effort visant à la sécurisation du pays et de sa population. Enfin, notre invité dans cette édition du journal, c'est David Kalenda. Il est chef de projet RIT 2.0 au sein de l'ONG Paul Institute. Il s'exprime sur ce projet lancé il y a 2 mois et dont l'objectif est de lutter contre la désinformation autour de la vaccination contre la COVID-19. Voilà tout pour le sommaire. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et bienvenue dans cette édition du journal. Le verdict est tombé hier soir dans le procès du double assassinat de Floribert Tchebeya et Fidel Bazana à la haute cour militaire. L'ancien commandant du bataillon Simba de la police nationale et commissaire supérieur Christian Ngoy Kenga Kenga écope de la peine de mort pour assassinat, désertion, détournement d'armes et munitions de guerre. Il est destitué de la police. D'autres détails avec vous, Jeff Ngoy.
Le policier Jacques Mugabo, l'un des exécutants, a écopé de 12 ans de prison avec des circonstances atténuantes pour assassinat. Cette peine est assortie d'une sûreté de 10 ans. Il est aussi destitué de la police pour désertion simple dont il a été accusé. Paul Mwilambu est simplement acquitté. En faveur des partis civils de Tchebeya Bazana, VSV et Renadoc, la haute cour militaire a sanctionné Christian Kenga et Mugabo en solidarité avec l'État congolais civilement responsable. Ils sont condamnés à réparer le préjudice causé au parti civil par le paiement des montants initialement fixés par l'arrêt de la haute cour le 17 septembre 2015, soit plus de 600 000 dollars. Rappelons qu'au premier degré, Mwilambu Kenga et Mugabo avaient été condamnés à la peine capitale. Au procès en réouverture, seul Paul Mwilambu s'en est ainsi tiré sans aucune charge. L'arrêt de la haute cour a reconnu que le général Zelo Djadjidja avait attribué en 2010 sa concession de Mitindi à l'inhumation de Bazana, ce qui a réconforté les partis civils pour le prochain round du procès Tchebeya Bazana.
Justice toujours, Sami Djamal, opérateur économique libanais co-accusé de Vital Kamerhe dans le procès dit de 100 jours du programme d'urgence du président de la République, bénéficie d'une liberté provisoire. Selon son avocat, cette liberté est assortie de quelques conditions pour lui permettre de se faire soigner. Rappelons que Djamal a été condamné en même temps que Vital Kamerhe pour notamment détournement des deniers publics dans les dossiers des passations des marchés publics au premier et second degré. C'est depuis 2020 qu'il a été écroué et hospitalisé dans un centre médical ici à Kinshasa. Le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, plaide pour une réforme profonde du secteur de la sécurité en RDC, mais aussi pour un assainissement sérieux des forces de sécurité et de défense congolaises. Des réformes qui sont indispensables à tout effort visant tant à la sécurisation du pays et de sa population. Le propos de Denis Mukwege sont contenus dans une déclaration rendue publique ce mercredi 11 mai. Plus de détails avec vous, Cynthia Bachizi Nabizana.
Denis Mukwege a dit noter avec inquiétude l'augmentation des violations des droits humains ainsi que le nombre croissant des victimes parmi la population civile. Cela dans les provinces en conflit sous état de siège. Cette situation doit amener les autorités congolaises à revoir en urgence la gouvernance sécuritaire et la diplomatie régionale selon les prix Nobel congolais. Car selon lui, cette mesure exceptionnelle donc l'état de siège n'a pas vocation à durer dans le temps mais surtout que son impact sur la protection des civils est négatif. Raison pour laquelle le prix Nobel congolais juge qu'il est plutôt important de mettre en œuvre des réformes institutionnelles visant le secteur de la sécurité. Une action nécessaire pour consolider l'édification d'un état de droit fort et protecteur des libertés fondamentales. Il faudrait également accorder la priorité à la justice et à l'obligation de rendre des comptes pour les auteurs présumés des crimes les plus graves qui sont commis depuis plus d'un quart de siècle en RDC, insiste le docteur Denis Mukwege. Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Kapi.
Entre-temps, en Ituri, le Parlement des enfants dénonce de violations graves des droits des enfants, notamment le meurtre, le kidnapping, l'enrôlement dans les groupes armés et les viols des filles mineures. Son président l'a dit ce mercredi au cours d'un point de presse à Bunia. Il lance un appel au gouvernement pour la restauration de la paix dans cette province. Anastasie Nehema nous fait le point.
L'insécurité impacte négativement le droit des enfants en Ituri, affirme le président du Parlement des enfants. Joseph Kikuni dénonce le non-respect de la loi portant protection de l'enfant. Il précise que depuis les mois de janvier de cette année, 58 cas de viol, 17 cas de mariage d'enfants mineurs, 12 cas d'agressions sexuelles ont été enregistrés à travers la province. Le Parlement des enfants de l'Ituri signale également 39 cas d'enlèvement par des groupes armés ainsi que 16 cas d'homicide. Dernier en date, au site des déplacés de Loda, dans le territoire d'Njougou, où 10 enfants ont été tués par des miliciens de la Codeco. À cela s'ajoute l'utilisation des enfants dans les groupes armés. Une ONG de défense des droits de l'homme à Mambasa a déjà répertorié 8 garçons enrôlés dans les groupes armés Maïmaï dans ces territoires. Le Parlement des enfants déplore aussi la destruction des infrastructures scolaires par des miliciens et l'occupation d'autres écoles par des déplacés. Selon cette structure, des cas d'arrestation arbitraire, des coups de blessure et d'extorsion des biens des enfants sont également légion. Pour garantir les droits des enfants, le Parlement demande au gouvernement d'imposer la paix en Ituri.
Au Nord Kivu, les acteurs de la société civile du territoire de Lubero alertent sur l'occupation par un groupe de miliciens Maïmaï du village Kaeku près de l'agglomération de Ndiapanda dans la chefferie de Bashwara. Aussitôt entrés mardi dans le village, ces miliciens ont imposé des taxes forfaitaires aux opérateurs économiques de la place, rapportent plusieurs sources locales. Cette situation est à la base d'une psychose qui règne depuis dans cette entité, grâce à Mzati.
Certaines sources locales parlent des miliciens de l'Union des Patriotes pour la Libération du Congo, UPLC, qui ont déjà occupé plusieurs villages du secteur de Bapéré et qui continuent d'étendre leur champ d'action dans la chefferie voisine de Bassoir. D'autres sources, par contre, affirme qu'il s'agit d'un groupe Maïmaï jusque-là inconnu. Ces miliciens ont été aperçus dans les villages Kaheku depuis la semaine dernière. Ce mardi, ils ont procédé à la distribution des jetons aux opérateurs économiques, y compris les petits marchands du village. Ces jetons seront recouvrés à la fin de chaque semaine. Cette taxe illégale sera perçue de manière forfaitaire, s'inquiète notre source. Les acteurs de la société civile dans la région plaident pour une intervention urgente de l'armée en vue d'épargner la population de toute exaction de ces miliciens Maïmaï. L'administrateur du territoire de Lubé qui reconnaît la situation, indique qu'il s'agit des miliciens de l'UPLC dont le leader a pris part aux consultations des groupes armés à Nairobi. Toutefois, le colonel Alain Kiwewa dit avoir tenu ce mercredi une réunion de sécurité extraordinaire en vue de mettre en place des dispositions nécessaires. Butembo, grâce à Mzati, Radio Kapi.
Autre nouvelle, la crise russo-ukrainienne a impacté négativement les économies du monde entier, y compris celles des États-Unis. C'est ce qu'a déclaré la conseillère économique principale de l'ambassade des USA à Kinshasa, Diane Ken. Elle s'exprime ainsi ici, donc, en marge de la conférence de presse en ligne tenue par José Fernandez, sous-secrétaire d'État en charge de la croissance économique, de l'énergie et de l'environnement du gouvernement américain. Diane Ken encourage le gouvernement de la RDC de continuer à dialoguer avec les importateurs afin de maîtriser la tendance inflationniste des produits de première nécessité provoquée par la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Diane Ken est au micro de Paul Matindou.
On a le même problème aux États-Unis avec les prix de quelque chose, des légumes, des viandes, de tout, des pétroles. Tous les prix, il y a une inflation sérieuse. Et c'est pour tout le monde. Ce n'est pas seulement ici en RDC. Mais c'est une question difficile pour tous les gouvernements pour voir comment ils peuvent réduire la pression pour les gens, non? Je ne dois pas faire des recommandations comme ça, mais je sais que le gouvernement ici a considéré beaucoup des options. Pour exemple, de réduire des impôts de VAT, pour faire des négociations avec les importeurs. Il y a beaucoup des options.
Et puis, les opportunités de désenclaver la province du Kassai Oriental à travers différents canaux de communication sont palpables. Consciente de l'ampleur du défi, les autorités congolaises ont mis en œuvre certaines initiatives, dont notamment les projets de construction et de modernisation de l'aéroport de Bipemba, celui de construction et de réhabilitation de la route nationale numéro 1 et la route nationale numéro 2. L'aboutissement heureux de ces projets vont ouvrir le Kassa oriental à d'autres provinces de la RDC et au monde. Il va apporter une lueur d'espoir aux voyageurs et booster le développement économique de la province. Quelles sont les opportunités pour sortir la province de l'impasse, Esther Dalafina?
Pour désenclaver la province par la voie aérienne, un projet de construction et de modernisation de l'aéroport de Bipemba, grâce au financement de la Banque africaine de développement BAD, a été lancé au mois de novembre de l'année dernière. Concernant le désenclavement par la voie routière, le Fonds de promotion de l'industrie, FPI, a signé aussi l'année dernière un partenariat avec la firme égyptienne dénommée Samkret pour la construction et la réhabilitation de la route reliant les villes de Mbujimayi et Kananga dans le Kasaï central. Dans un autre volet, la route nationale numéro 1 dans son tronçon Mbujimayi-Kamina et la nationale numéro 2 Mbujimayi-Bukavu seront réhabilitées et modernisées d'ici fin juillet 2022 par l'entreprise AM, une firme de souche allemande. Pour désenclaver la province par la voie fluviale, le ministère de l'Industrie, à travers le FPI, a financé l'entreprise congolaise Mali Lanzinze, spécialisée dans les transports fluviaux, pour l'acheminement des produits des premières nécessité par bateau. Après quelques mois, le trafic a été suspendu suite aux obstacles constatés, explique l'armateur. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Et puis, cette bonne nouvelle pour les parents d'élèves de la 6e année primaire des écoles privées. Le gouvernement congolais vient d'exempter tous ses enfants du paiement des frais de participation à l'épreuve nationale de fin d'études primaires et NAFEP prévue du 23 au 24 juin prochain. Au Maniema, c'est la sous-préfète de Kasuku qui l'a annoncé à la presse ce mercredi. Patrice Orano-Lohare a par cette occasion demandé à tous les chefs d'établissement qui avaient déjà perçu cet argent de les rembourser sans condition. On l'écoute dans ses propos recueillis par Florence Kizalonga.
Je profite de votre micro pour dire aux parents, aux enseignants, que nous avons reçu d'autres dispositions émanant du niveau national, lesquelles instructions nous demandent de vulgariser cette instruction, laquelle instruction voudrait que tous les élèves qui sont en sixième année dans les écoles privées sont exemptés de payer les frais de TENAFEP, communément appelé aujourd'hui NAFEP. Donc, tous ces élèves-là qui sont dans les écoles privées agréées en sixième année n'ont aucunement le droit de payer les droits de participation à cette épreuve d'évaluation-là. C'est ainsi que je demande à tous les chefs d'établissement qui me suivent de restituer sans condition tous les frais déjà perçus aux parents des élèves.
Pendant ce temps, dans la province du Kwilu, la société civile de la ville de Bandundu et du territoire de Bagata salue le récent arrêté du ministre national de l'EPST, Tony Mwaba, portant nomination des sous-provèdes. Lequel arrêté qui, selon cette structure, a aussi pris en compte la notion du genre en nommant une femme à la tête de la sous-division de l'EPST Bandundu. Il s'agit de Madame Bénédicte Aboukani Boloko, qui est la toute première femme à briguer ce poste depuis la création de cette sous-division. Il y a de cela plusieurs décennies. Irène Bouma.
Dans une déclaration faite mardi à la presse devant le bureau de l'EPST du Kwilu 1 à Bandunduville, la société civile de Bandundu et de Bagata s'est dite satisfaite de cet arrêté du ministre national de l'EPST, le professeur Tony Mwaba, qui a nommé aussi une femme au poste de sous-provette à la sous-division de l'EPST de Bandunduville. Pour la société civile, cet arrêté a respecté toutes les normes, entre autres la notion de genre, contrairement aux anciennes nominations.
Nous encourageons Son Excellence Tony Mwaba, contrairement aux décisions passées, votre arrêté a respecté toutes les normes, à savoir respect de genre.
Il s'est de préciser que depuis 1966 jusqu'à ce jour, 14 sous-provètes se sont succédés à la tête de la sous-division de l'EPST de la ville de Bandundu. Et Madame Bénédicte Aboukani Boloko, qui vient d'être nommée sous-provette à cette sous-division, en est la 15e et la toute première femme depuis tous ces temps. À ce poste, elle aura pour mission notamment de veiller sur la bonne marche de toutes les écoles et fera l'interface entre la hiérarchie et les écoles. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Actualité internationale.
La justice malienne convoque le ministre français des Affaires étrangères. Jean-Yves Le Drian est entendu le 20 juin prochain au palais de justice du tribunal de grande instance de la commune 3 de Bamako pour être entendu dans une affaire d'attribution de marché public pour la fabrication des passeports maliens. Lui et son fils Thomas, dont le nom est également cité, sont soupçonnés d'entête aux biens publics et autres infractions aux dépens de l'État du Mali. Une affaire qui remonte à 2015. Côté français, on dénonce une énième provocation. Et puis en Cuba, 3 personnes ont été blessées mercredi par une explosion accidentelle au gaz dans la vieille Havane, à 800 mètres de l'hôtel Saratoga, quasiment détruit par le même genre d'explosion vendredi dernier, ont informé les autorités. Les pompiers ont coupé les gaz dans les quartiers. Le bilan de l'explosion au Saratoga, toujours provisoire, est désormais de 44 personnes tuées et 54 blessées.
L'invité.
Notre invité dans cette édition du journal est David Kalenda. Il est chef de projet RIT 2.0 au sein de l'ONG Paul Institute. Il s'exprime sur ce projet lancé il y a 2 mois et dont l'objectif est de lutter contre la désinformation autour de la vaccination contre la COVID-19 dans 4 provinces de la RDC, notamment Tanganyika, Nord-Kivu, Sud-Kivu et l'Ituri. David Kalenda s'entretient avec Clarisse Ziyundula. Suivez.
David Kalenda, bonjour.
Bonjour Clarisse.
Votre organisation a lancé il y a quelques mois un projet sur la lutte contre les rumeurs, vaccination contre la COVID-19. Pourquoi ce projet? Êtes-vous parti d'un constat donné?
En fait, ce projet intitulé RIT 2.0, donc Rooted in Trust en anglais ou enraciné dans la confiance en français, c'est une réponse aux infodémies. Nous avons constaté que depuis que la campagne de vaccination contre le COVID-19 a été lancée, il y a plusieurs infodémies, plusieurs rumeurs, plusieurs fausses informations qui circulent notamment dans les réseaux sociaux, et lorsque ça quitte les réseaux sociaux, ça prend le couloir traditionnel, ça veut dire de bouche à oreille. Alors ce projet vient dans le but de pouvoir apporter une réponse à ce fléau des infodémies. C'est un projet qui va être implémenté dans la province du Nord et du Sud Kivu, mais aussi dans la province du Tanganyika et de l'Ituri. Alors dans le consortium, on est avec plusieurs autres organisations, c'est un financement de l'USAID qui est passé par Internews qui a le lead, et là-dedans nous avons Paul Institute et UCOFEM. Donc c'est vraiment une réponse aux infodémies pour que la population, notamment les populations vulnérables, il y a les déplacés, il y a les personnes vivant avec handicap, il y a les femmes, il y a aussi plusieurs catégories de personnes vulnérables, pour qu'ils aient accès à la bonne information.
Selon votre constat, quelles sont les grandes rumeurs ou perceptions sociales qui empêchent les gens de se faire vacciner?
Alors il y en a plusieurs, mais la plupart d'entre ces rumeurs sont généralement liées au vaccin. On a entendu des gens qui disent que ceux-là qui ont été vaccinés mourront dans 2 ans. Il y a ceux-là qui disent que, ben voilà, ceux-là qui ont reçu le vaccin deviendront impuissants ou deviendront infertiles. Donc les femmes ne pourront plus faire d'enfants, les hommes ne pourront plus être prolifiques. Ce sont des informations qu'aucune radio n'a diffusées, aucune télévision n'a diffusées, mais ça passe via les réseaux sociaux. Ça prend le canal traditionnel de la bouche à oreille. Il y a aussi cette théorie du complot. Il y en a qui vous disent, ben, c'est une maladie des blancs, ça ne concerne pas les noirs. Il n'y a aucun noir qui meurt de COVID-19. Il y a même d'autres qui disent, ben voilà, c'est plutôt satanique cette histoire de vaccin. Alors, toutes ces informations passent via les réseaux sociaux et notamment Facebook et WhatsApp.
Concrètement, comment comptez-vous changer les perceptions sociales de l'Ituri et convaincre les Ituriens de l'importance de la vaccination contre la COVID-19?
C'est pour cette raison que nous travaillons en partenariat avec des partenaires locaux, avec des acteurs locaux, notamment les organisations des jeunes, les organisations de femmes, pour faire de la sensibilisation de porte à porte par la tradition orale. Et cette sensibilisation ne se fait pas au hasard. On se réveille pas un matin, on dit on va sensibiliser à ceci. Non, c'est pas ça. On fait ce que nous appelons le monitoring des réseaux sociaux. On fait le monitoring des infodémies qui circulent dans la communauté de bouche à oreille. Et c'est par rapport à la problématique constatée des infodémies qui circulent, des déficits d'informations qui existent, que nous allons mettre en place une action. Cette action, c'est des actions directes ou des actions indirectes. Les actions directes, c'est que nous sommes en partenariat avec les organisations locales des jeunes qui vont faire de la sensibilisation en fonction des données recueillies. Avec Internews, nous allons faire une enquête pour collecter les données sur les infodémies qu'il y a dans la communauté, et sur base de ces informations, nous allons faire des messages, nous allons produire des des émissions qui s'inscrivent dans le cadre de la communication pour le changement de comportement. Les jeunes vont partager aussi les bonnes informations dans les réseaux sociaux, dans les mêmes canaux que ceux-là, les détracteurs du vaccin utilisent pour casser cet engouement qu'il y avait pour la vaccination. Ce sont les mêmes canaux que nous utilisons pour rétablir la vérité. Et évidemment, pour cela, nous bénéficions de l'expertise de la DPS. Nous ne sommes pas des experts en question de Covid. Nous faisons toujours et nous ferons toujours appel aux experts de la DPS, du programme élargi de vaccination et de toute l'équipe de riposte impliquée dans la lutte contre la Covid-19. Donc, c'est un peu toutes ces stratégies de manière coordonnée que nous allons mettre en place en Ituri et même dans d'autres provinces que j'ai citées au début. C'est ce que nous allons faire en travaillant avec les structures à base communautaire.
David Kalinda, merci.
Merci, Clarisse.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.